Julia Trangeval.
Bonjour, une émission consacrée à la beauté cette semaine. Traditionnel mais toujours très apprécié, le henné, inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité en 2024 par l'UNESCO. C'est un symbole de joie, une arme de séduction. Nous irons en Mauritanie où on l'applique en motif géométrique. Mais d'abord direction le Maroc pour parler chirurgie esthétique. Cela touche les femmes et les hommes également. Rhinoplastie, liposuction, chirurgie des paupières, toutes ces interventions de chirurgie esthétique ont longtemps été l'apanage des femmes au Maroc, mais désormais elles intéressent de plus en plus une clientèle masculine. Dans le royaume, ils sont aujourd'hui nombreux à avoir recours à la chirurgie classique ou au Botox pour surmonter des complexes liés à l'âge ou au poids et à des problématiques typiquement masculines. C'est un reportage à Rabat de Mathias Reynal.
Alors on va dans une clinique de chirurgie esthétique. La clinique se trouve sur l'une des grandes avenues de Rabat, l'avenue Mohamed VI. Et c'est une clinique assez imposante. Bonjour, professeur Slaoui.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Écoutez, je vais bien, merci. Professeur Slaoui Salahedine, spécialiste en chirurgie plastique esthétique. Depuis une dizaine d'années, il est certain qu'il y a plus d'hommes. Je suis dans la chirurgie esthétique depuis 1980, à peu près, donc ça fait un peu plus de 40 ans. On est passé d'un homme sur 4 ou 5 femmes à un homme pour 3 femmes.
C'est quoi les motivations alors des hommes, en quelques mots
Souvent, ils ont des motivations quand même plus personnelles que les femmes. Ça peut lui arriver de se faire opérer pour plaire, etc. Mais l'homme, c'est souvent un petit peu par narcissisme, pour qu'il continue à s'admirer, à s'apprécier dans les miroirs.
Et du coup, qu'est-ce qu'il demande?
Il y a au moins 2 ou 3 interventions qui sont spécifiques aux hommes, comme par exemple la gynécomastie. Il y a un certain nombre d'hommes qui ont des seins trop développés et ça peut les gêner. Deuxième intervention assez spécifique aux hommes, c'est la greffe des cheveux quand même. L'augmentation de pénis aussi, ça se fait aussi beaucoup avant le mariage. Effectivement, il y a beaucoup d'hommes qui viennent demander une augmentation aussi bien de la longueur que de la largeur. Ça doit représenter à peu près 20% des interventions, donc un homme sur 5.
On va aller dans la salle des consultations maintenant. Juste à côté, il y a Mehdi. Son prénom a été modifié pour préserver son anonymat. Il a subi, il y a quelques semaines, un agrandissement du pénis. Parlons un peu de cette opération. Pourquoi tu l'as faite et qu'est-ce que tu as fait exactement ?
L'opération
J'ai décidé de faire cette opération pour ma femme. On a eu des enfants et lors de l'accouchement, elle a souffert au niveau de son appareil génital. Avec le temps, après le premier, deuxième, troisième enfant, il y a eu des changements. Nos relations sexuelles ne sont plus les mêmes qu'au début. J'aime beaucoup ma femme et je ne peux pas la tromper. Comme elle s'est sacrifiée pour donner naissance à nos enfants qui sont ce qu'on a de plus cher, je me suis dit, moi aussi je fais un sacrifice et je fais cette opération d'agrandissement du pénis.
Est-ce que dans la tête des gens, la chirurgie esthétique, c'est toujours quelque chose pour les femmes?
Comme les femmes qui y ont recours pour s'embellir, les hommes aussi peuvent le faire, mais dans un cadre limité. S'ils souffrent d'une tare grave ou si jamais une intervention légère peut donner un résultat positif, ce n'est pas grave. Mais si l'homme veut avoir recours à la chirurgie juste pour devenir beau, pour attirer l'attention, bon, chacun ses convictions.
Donc là, j'ai rendez-vous avec le docteur Aboubakr Harakat. Il est psychologue. Le docteur Harakat, ça fait une 40aine d'années qu'il exerce. Il est également sexologue. Est-ce que vous avez pu constater, au fil de ces années, un changement de mentalité, de rapport au corps chez les hommes marocains?
Ce qui était pratiquement impensable pour un homme, il y a 40 ans par exemple, de se mettre des crèmes sur le visage, ben maintenant c'est chose courante. Maintenant par exemple, dans les rues, les boulevards de la ville, combien de barbershops commencent à foisonner? Et ce n'est pas que pour se couper les tifs, hein. C'est pour des soins. Les hommes qui vont faire une manicure et pédicure, les hommes qui vont dans des spas, prendre soin de son corps, ce n'est plus un tabou, ce n'est plus une chouma. Hein, la chouma est une sorte de honte pour l'homme marocain qui doit être plutôt fort et ne pas prêter attention à ce genre de choses. Ben non, non, maintenant, c'est entré dans les mœurs. Alors maintenant, pour en venir à la chirurgie esthétique, c'est une évidence parce que quand on commence à prendre soin de son corps, on veut rectifier ce qui pour nous est des imperfections.
Donc là, on va à la rencontre d'un Casablancais qui a fait, il y a 2 ans, des implants capillaires. Et il va nous parler de cette opération. Salam alaikum.
Je m'appelle Yacine, bientôt 31 ans. J'ai perdu mes cheveux très très jeune, à partir de l'âge de 14 ans. Je commence à perdre mes cheveux. J'avais une Zidane inversée. Et donc, on va dire que j'ai pas vraiment pu profiter de mes cheveux, ni des coupes, ni de pouvoir faire des teintures, des trucs comme ça. Et donc, c'est quelque chose qui m'a toujours manqué.
Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, justement, de récupérer ces cheveux?
Le résultat n'était pas à 100% ce que j'espérais. Ça n'a pas changé grand-chose, la vérité. Je m'aime un peu plus quand je me regarde dans le miroir. Je suis un petit peu plus content de voir que sur mon crâne et sur ma tête, il y a des cheveux, plutôt. C'est surtout ça. Mais ouais, un peu plus de confiance en soi. Mais ça, après, c'est inconscient.
Qu'est-ce qui a changé au Maroc, tu dirais, entre ta génération et les générations précédentes dans ce rapport au corps chez les hommes?
Les hommes font un peu plus attention à eux, un petit peu plus, mais après, la grande majorité part du principe, c'est un dicton qu'on dit au Maroc, on dit que « rajl makri'ibou rirjibou ». En traduction, la seule chose qui puisse être reprochée à un homme, c'est son porte-monnaie. Ça veut dire que tu peux être la plus grosse des mochetés, si tu as un compte en banque plutôt pas mal, tu te fais les plus belles. C'est malheureusement comme ça.
Mais quand même, tu fais partie d'une génération qui, où la beauté est importante.
On fait un petit peu plus attention à soi, mais pas à l'américaine ou à l'occidentale européenne. Non, ça va. Il y a des musulmans, nous.
Merci beaucoup. Au Maroc, dans le domaine de la beauté, la barrière de genre est en train de tomber, vous l'aurez compris. Les hommes ont de plus en plus recours à la chirurgie esthétique. Il faut dire aussi qu'elle se démocratise. La majorité des patients du professeur Slaoui sont issus de la classe moyenne.
Une seringue, une lame de rasoir, plus question là de chirurgie esthétique, mais du matériel nécessaire pour appliquer le henné. En Mauritanie, les femmes peuvent choisir entre des motifs à l'indienne, qui rappellent les motifs cachemire et qu'on dessine à la seringue, ou des dessins géométriques réalisés avec de très fines bandes de sparadrap découpées au rasoir et sur lesquelles on applique la pâte de henné. Nous sommes assises entre femmes sur le tapis d'un grand salon moderne dans les nouveaux quartiers de Nouakchott. Un plateau posé sur le sol à côté d'elle, Tfeila, une forgeronne, prépare le henné. C'est un rituel de beauté féminin destiné d'abord au plaisir des hommes, mais pas seulement, c'est un symbole de bonheur.
Le henné, c'est pour se faire belle parce que les hommes en Mauritanie aiment beaucoup le henné. La mariée fait beaucoup, beaucoup de henné, beaucoup de motifs. Ou bien quand c'est la sœur ou la cousine ou la meilleure amie de la mariée, elle fait aussi beaucoup de motifs. Les femmes, elles en profitent en fait pour exprimer le bonheur durant une occasion.
Le mariage, c'est la grande occasion d'appliquer le henné. À ce moment-là, la forgeronne vient avec toute une équipe pour embellir le corps de la mariée et de ses invités.
Il y a une forgeronne principale qui est celle proche de la famille. Alors celle-là va amener son équipe, en général composée de 4 personnes. Une forgeronne par membre, les 2 mains et les 2 pieds. Et puis, durant le mariage, la famille de la mariée va dire « Nous avons des forgeronnes qui font le henné. Si vous voulez venir aussi participer, avoir votre part de henné, vous pouvez venir. » Traditionnellement, c'est ce qui se fait. Et ensuite, il faut savoir que le henné de la mariée, il commence de 8h le matin jusqu'à parfois 4h à 5h l'après-midi parce que c'est très très long.
Cet après-midi-là, pas de mariage. Tfeila a juste préparé un petit plateau pour bien nous montrer tous ses instruments, tous les préparatifs nécessaires à l'application du henné.
C'est scotch coupé en très fines lamelles que j'ai coupées. Alors ça, c'est la lame pour couper. Et ça, c'est le henné. qui est donc une plante que vous connaissez. On la pile, on la filtre, puis on la mouille avec de l'eau. Elle devient toute rouge quand on met ça sur la peau. Voilà. Alors ça, c'est je travaille avec les gants pour éviter que j'ai du rouge qui me reste sur les doigts quand je travaille.
Vous avez commencé à quel âge, vous, à faire le henné ?
Alors, en général, dans la famille des forgerons, il y a la maman qui est forgeron, les tantes, les sœurs. Et donc, depuis mon plus jeune âge, comme toutes les forgeronnes, je regarde, j'observe. Et c'est comme ça qu'on apprend petit à petit, parce qu'on baigne dans cette pratique. Et puis, à partir de 15 ans, 16 ans, la maman peut dire « Allez, tu vas commencer à m'aider ». Et puis voilà, petit à petit, le métier s'apprend.
Un héritage familial dans une société mauritanienne fractionnée et hiérarchisée, à cheval sur le monde arabe et l'Afrique subsaharienne, mort blanc de la caste des guerriers, des marabouts, forgerons et griots, à ratines, anciens esclaves ou affranchis, les forgerons, chargés de l'artisanat, jouent depuis toujours un rôle essentiel dans la société mauritanienne, comme l'explique la sociologue Nejwa El-Kitab.
Les familles nomades maures auront eu beaucoup de mal à s'adapter dans un milieu aussi aride que le désert, sans les forgerons, qui ont permis justement de faciliter leur quotidien par les tapis, ce qu'ils appellent le khatamal, pour pouvoir élever les matelas, pour aussi pouvoir faire des belles montures pour les dromadaires, pour pouvoir déplacer les familles, les femmes et les enfants. Toute la vie matérielle, que ce soit au niveau de la confection des tentes, du matériel de la vie quotidienne dans la société maure nomade, était portée et fabriquée par les forgerons. Et même pour l'aspect guerrier, les forgerons ont joué un rôle essentiel dans la mesure où ils fabriquaient les armes, ils fabriquaient aussi les montures pour les chevaux, pour les dromadaires, les armures. Et même traditionnellement, par exemple, il peut y avoir un homme qui serait connu pour bien faire les circoncisions dans les familles de tradition médicinale connues en Mauritanie. Mais les femmes sont dans la sphère esthétique féminine et la féminité elle-même. Bien sûr, il y a aussi le tissage pour les tapis, etc. Dans la société maure, les forgerons et les forgeronnes continuent toujours de jouer un rôle majeur dans ce champ-là.
Retour sur le tapis du salon mauritanien avec Tfeila, qui, tout en évoquant son art, continue ses dessins. Le henné est presque toujours sur les mains et les chevilles des femmes en Mauritanie. C'est aussi une arme de séduction.
C'est pour plaire aux hommes. Quand il y a une femme qui pense à séduire un homme, elle va mettre beaucoup de henné, elle va se faire belle avec un voile noir traditionnellement, avec des tresses et toute une panoplie en fait, d'accessoires en fait, traditionnels pour embellir la femme.
Bien sûr, des motifs ornementaux sur une femme qu'on aime, voilà de quoi emporter le cœur d'un homme.
Oui, alors il y a une tradition qui s'appelle bounty, ça vient du chocolat, donc le bounty que vous connaissez. D'un point de vue traditionnel, quand une femme faisait un henné, l'homme, en guise de cadeau pour montrer que ça lui a plu, il va égorger un mouton, il va ramener des cadeaux, qu'on appelait un terme traditionnel qui s'appelle tavoukit. Après, avec le temps, quand les gens ont vécu en ville, ils ont appelé ça bounty. C'est devenu des cadeaux qu'on fait sous forme de chocolat, de cartes de crédit, de parfums, parfois même des téléphones de luxe. Donc voilà, on appelle ça bounty. Et c'est quand une femme donc, fait le henné, son mari lui amène ce cadeau-là pour lui dire que ça lui a plu et qu'il est content. C'est une façon aussi de donner des cadeaux aux forgerons qui l'ont fait, mais aussi pour la femme qui est concernée. Parfois même, ils jettent de l'argent et puis il y a des you-you. Voilà, donc c'est très festif.
Le henné est un art, un héritage millénaire et un symbole culturel pour tout le monde arabe. 16 pays du Maghreb jusqu'au Golfe l'ont d'ailleurs porté dans une candidature commune devant l'UNESCO, permettant son inscription au patrimoine immatériel de l'humanité en 2024. Tambour à la main, c'est l'une des figures incontournables du Ramadan en Tunisie, le Boutbila, rencontre au détour des rues de Tunis, signée Lilia Blaise.
À 3h du matin, Mounira, la soixantaine, parcourt les ruelles vides d'Enfida, une ville à une centaine de kilomètres de Tunis. Avec son tambour en bandoulière, elle vient réveiller les jeûneurs du Ramadan pour qu'ils prennent une dernière collation avant la reprise du jeûne aux premières heures de l'aube. Mounira joue le rôle de Boutbila, le crieur du Ramadan, depuis 6 ans et elle connaît tous les habitants par leur prénom.
Je les connais tous, certains sont mes amis. Ça fait des années que je fais cette tournée chaque nuit du Ramadan. Et donc, je crie leur nom pour les encourager à se lever et à prendre un petit déjeuner avant de reprendre le jeûne.
Elle marche d'un pas rapide et assuré, car elle doit réveiller plusieurs foyers sur un laps de temps court, un métier difficile qu'elle fait surtout pour gagner un peu d'argent grâce à la charité des jeûneurs pendant le mois saint.
Que voulez-vous ? C'est mon pain quotidien. Il faut que je sorte chaque jour et que je gagne un peu d'argent, sinon je ne mange pas à ma faim. Parfois, les gens ne me donnent pas d'argent du tout et ça m'angoisse. C'est très difficile. Je marche seule la nuit, dans le froid, et quand je rentre chez moi, je suis fatiguée. D'ailleurs, moi, je ne la prends pas la collation d'avant l'aube. Je suis trop épuisée pour manger.
De retour chez elle, où elle s'occupe seule de sa mère et de son frère, Mounira explique qu'elle a hérité le tambour de son père, qui lui-même pratiquait le boutbila.
Je voyais toujours mon père faire la boutbila quand j'étais petite. Lui, il avait hérité du tambour d'un ami qui jouait avant lui le rôle du crieur. Lorsque mon père est décédé, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Après tout, ça me permet d'aider ma mère et mon frère qui sont à ma charge.
À Tunis, dans le quartier d'El Razela, c'est un autre son de tambour qui résonne, celui de Salah, père de 4 enfants, et boutbila depuis des années. Il n'a pas hérité de cette fonction, il a décidé de lui-même de faire le tambour pour subvenir à ses besoins.
Moi, je suis originaire du nord de la Tunisie, d'un petit village. Mon frère avait l'habitude de pratiquer cette tradition avec un bidon vide. Donc en arrivant à Tunis, je me suis acheté un tambour et j'ai commencé à passer dans le quartier. C'est pas toujours facile parce qu'on fait ça sans autorisation. D'ailleurs, une fois, je me suis fait embarquer par la police.
Pour lui, il s'agit aussi de préserver une tradition.
Dans certaines régions de Tunisie, très isolées, c'est très important. Vous avez des gens qui n'ont pas de téléphone ou qui ne savent pas forcément mettre une alarme. Ils ont pris l'habitude du boutbila. Beaucoup se lèvent seulement avec le boutbila et on voit ça aussi dans d'autres pays comme l'Égypte.
Chaque 27 du mois de Ramadan, qui marque la nuit du destin, il récolte l'argent donné par des jeûneurs, la zakat. Cette aumône est une obligation islamique. Elle permet aux donateurs de se purifier de ses péchés et d'aider les plus nécessiteux en prévision de l'Aïd. La fête qui marque la fin du mois saint nécessite beaucoup de dépenses. Pour Salah, ce pécule permet d'arrondir les fins de mois, souvent difficiles à cause de boulot journalier sans stabilité.
Certains me donnent 2 dinars, 5 dinars. Chacun fait comme il peut. Des gens me donnent aussi des gâteaux ou des vêtements pour l'Aïd. Beaucoup sont gentils avec moi et me connaissent car je travaille parfois comme jardinier dans certaines maisons. Des fois, je vais même avec le tambour dans la cour de certaines maisons pour faire un spectacle pour leurs enfants.
Beaucoup de ces boutbila comme Mounira et Salah sont des anonymes aux yeux du grand public. Mais les gardiens d'un patrimoine, selon l'historien Abdessattar Amamou, ce spécialiste explique l'importance du boutbila à l'heure des réveils technologiques et des téléphones.
Avant, le boutbila, c'était surtout celui qui, dans chaque quartier, allait réveiller les gens individuellement en criant leur prénom. Donc il y a un côté très nostalgique aujourd'hui. C'est pour cela qu'il faudrait peut-être plus valoriser ces gens qui maintiennent un peu la tradition.
Ce crieur du Ramadan, devenu personnage emblématique du mois saint, existe aussi dans le reste du Maghreb. Au Maroc, il s'appelle Nafar et parcourt les rues avec une trompette pour réveiller les habitants.
Carrefour du Maghreb à la réalisation et aux moyens externes. Françoise Grelot, à bientôt.